Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Stéphanie. Parmi les quelques 200 mails de demandes de témoignages reçus, c'est définitivement le sien qui a retenu mon attention en premier. Son parcours est incroyable et je savais d'avance qu'elle aurait tant à raconter. Ensemble, nous avons parlé de son expérience en tant qu'infirmière en service de Grand Brûlé. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Marielle.
Écoute, je te remercie de prendre de ton temps pour me recevoir chez toi virtuellement ce samedi matin.
Pas de rien. En plus, le virtuellement avec cette période sanitaire, on le connaît.
Oui, on commence à y être un peu, malheureusement un peu habitué.
C'est ça.
Comme les gens l'entendent à ton accent chantant, pour moi c'est un plaisir de t'avoir à mon micro, surtout qu'il fait un temps absolument effroyable dehors. Donc voilà, tu es le petit rayon de soleil de ma journée.
Bientôt, il y aura le soleil qui arrivera sur moi peut-être pendant la conversation.
On croise les doigts. Stéphanie, je te laisse te présenter comme tu le souhaites.
Du coup, je m'appelle Stéphanie, donc j'ai 39 ans, je suis infirmière depuis 16 ans, j'habite dans le sud de la France, donc comme tu l'as dit. J'y suis née et j'y vis. Je fais beaucoup de rando, de l'équitation aussi. C'est comme ça que j'aime bien me vider la tête hein, et profiter de cette belle région, puisqu'on a la mer et la montagne pas loin.
Et occuper ton temps libre, qui doit être déjà bien...
C'est ça, occuper...
Bien réduit.
Occuper mon temps libre, à prendre l'air, voilà. Surtout, c'est ça, être à l'extérieur, puisque à l'hôpital, on est enfermé. Et en plus, le service des brûlés se trouve au niveau moins 1 de l'hôpital. Donc, du coup, même si on n'est pas complètement en sous-sol, c'est bon, voilà. On est fermé, donc...
Et sur le plan professionnel, je t'invite aujourd'hui pour parler du coup de ton expérience en tant qu'infirmière au Grand Brûlé. Mais avant de démarrer sur ce sujet-là, je voulais savoir, Stéphanie, quand elle avait 5-6 ans, qu'est-ce qu'elle voulait faire dans la vie?
Je t'avoue que je ne sais pas trop, mais je pense que je suis passée par un peu toutes les étapes, prof, etc., institutrice, etc., tout ce qu'on croise quand on est enfant. J'ai une photo de moi quand même en tenue d'infirmière qui, avec le stéthoscope avec mon papa.
Quand même.
Il n'y a pas très longtemps, donc quand même, je pense que j'y pensais quand même un peu. Oui, le métier d'infirmier m'était passé par la tête, mais sans le connaître vraiment. J'ai toujours été intéressée. Le corps humain, c'est la plus belle machine au monde, hein, je pense. C'est tellement riche, se reconstruit, c'est vraiment... ça m'a toujours passionnée. Du coup, c'est pour ça que j'avais fait une carrière scientifique, enfin un bac scientifique, et j'avais tenté médecine, encore plus difficile au niveau vie... les études, les concours, l'internat après derrière, et du coup, infirme, enfin, voilà, je sais pas, en fait, je pense que c'est un peu comme tout le monde, t'es un scientifique, t'as un bon niveau, on te dit fais médecine quand t'es intéressé, sans avoir plus recherché qu'est-ce qu'était la profession, et j'ai rencontré des médecins qui faisaient l'internat, justement, et qui avaient des spécialités, enfin, bref, il y avait toujours... Enfin, une fois que tu es dans une spécialité après l'internat, tu es un peu coincé, entre guillemets. Du coup, j'ai rencontré en même temps des infirmières qui m'ont fait découvrir ce métier, les différentes possibilités, à quel point ça pouvait être riche d'avoir un métier, mais tellement de manières de l'exercer. D'un coup, d'un seul, ça m'a sauté aux yeux.
Et voilà. De pas s'enfermer peut-être dans une spécialité, puis de pouvoir changer toute ta vie de lieu d'exercice.
C'est ça.
C'est sûr, c'est le gros avantage du métier en tout cas.
J'ai fait 2 ans de médecine, les 2 premières
années. Les deux premières années, d'accord.
La première année.
Okay.
Et après, j'ai fait, en attendant d'avoir le concours infirmier, du coup, j'ai fait une année de doc de biologie. Et après, j'ai eu le concours et du coup...
C'était parti pour 3 ans.
Et voilà.
Et alors, du coup, raconte-moi cette première expérience professionnelle après l'obtention du diplôme.
Du coup, je me suis retrouvée dans le service des brûlés, où à la base je faisais ce métier pour changer de travail souvent et pour pouvoir faire varier, et je n'aurais jamais pensé y passer autant d'années. Mais en fait c'était... Alors maintenant ça a changé avec l'organisation de l'hôpital différente, etc. et plein de paramètres différents. Mais quand j'y suis arrivée, le service des brûlés c'était un mini-hôpital dans l'hôpital. C'est-à-dire qu'on était complètement en autonomie, dans le sens où les urgences arrivaient dans mon service, qu'on avait dans le service, du coup, la prise en charge des urgences, la réanimation, les soins intensifs, les enfants, les adultes, la consultation, un bloc opératoire, la chirurgie de séquelles, donc les patients brûlés, ils arrivaient à l'hôpital dans ce service-là, et ils en sortaient pour aller en centre de rééducation. On les avait de A à Z.
Ah oui, y avait vraiment la ville dans la ville.
C'est ça, on avait un bloc opératoire autonome, et du coup, en tant qu'infirmier, c'était riche, puisque tu avais un planning sur le mois où tu faisais 2 jours de bloc, 2 jours de consulte, après tu faisais la réa, enfin, tu tournais sur tous les postes, en fait. Donc, un peu d'expérience,
c'était riche. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce service? Comment est-ce que tu as entendu parler du service des grands brûlés? Est-ce qu'il y a eu un stage, quelque chose qui t'a révélé?
Oui, c'est ça, en fait. Déjà, je me souviens d'un reportage que j'avais vu quand je préparais le concours, il me semble, ou je sais pas, genre le magazine de la santé ou quelque chose comme ça, où il faisait un reportage sur les grands brûlés à Paris, que j'avais trouvé déjà, qui m'avait déjà attiré. Ensuite, pendant mon cursus infirmier, en première année, du coup, on avait des modules, et le premier module pratique qu'on a eu, c'était traumato, et c'est mon chef de service que j'ai gardé pendant 10 ans, qui nous a fait ce premier cours, et qui parlait de la cicatrisation, et qui était passionné, et qui l'est toujours, et qui m'a vraiment... de suite, ce cours, j'ai accroché, et la cicatrisation, ça paraissait... pareil, le fonctionnement du corps humain, comment on peut cicatriser une plaie, différentes phases, comment se reconstruire l'organisme, je trouvais ça passionnant. Et lui, il avait une manière d'en parler, je pense, en plus. Alors, je sais pas si c'est, s'il en avait parlé autrement, peut-être que ça aurait été pareil, hein, je ne sais pas. Et du coup, directement, les plaies, dans tous mes stages, en fait, à chaque fois, j'étais confrontée aux plaies, et à appeler l'équipe mobile qu'on avait sur le CHU, qui m'a directement mis le pied à l'étrier dans cette discipline. Ensuite, en deuxième année, en fait, on était en groupe de suivi. Je sais pas si c'était pareil chez toi dans les écoles. On était en groupe de suivi. On se répartissait les stages en fait par groupe de suivi pour alimenter son cursus le plus judicieusement possible. Et du coup, il y avait le stage des brûlés. Ce stage, du coup, en me repensant au reportage, j'étais très intéressée pour le faire. On était 3. Du coup, on a fait un tirage au sort, et c'est moi qui ai été tiré au sort pour aller dans le service des brûlés.
Ah, ça a tenu à ça, c'est rigolo.
Ça a tenu à ça, oui, c'est ça. Donc, des fois, je dis que le destin, quand il est fait comme ça, voilà.
C'est ça.
Et du coup, donc, j'ai fait ce stage qui s'est très bien passé, qui m'a fait découvrir la brûlure comme quelqu'un de novice, vraiment, puisque c'est un service très spécifique. Du coup, le stage s'est bien passé, j'ai accroché, et après, quand j'ai postulé au CHU pour rentrer, ils m'ont demandé 3 choix. Alors, mon premier choix, c'était quand même pas les brûlés, c'était la neurochirurgie, où j'avais également fait un stage et où j'avais beaucoup accroché aussi avec cette spécialité. Et mon deuxième choix, c'était les brûlés. J'avoue que je pense que c'est par crainte un peu, parce que en tant qu'étudiante, on restait plutôt en réa. Avec des soins traditionnels, on va dire, et on participait pas à tous les autres postes qu'il y avait dans le service, et que je me disais que ça allait être très dur en tant que nouvelle diplômée d'arriver dans ce service, et le CHU a choisi de m'envoyer là.
Du coup, alors à nouveau, le destin a choisi pour toi.
Du coup, il y a une place au brûlé, en sachant que les brûlés, c'est tellement spécifique qu'il faut en général y mettre des personnes qui ont déjà été confrontées à la brûlure et qui savent ce que c'est, parce qu'en général, il y a 15 jours d'acclimatation où les personnes peuvent dire qu'elles ne veulent pas y rester.
Ah oui, d'accord, on laisse quand même ce choix, c'est spécifique.
C'est tellement c'est spécifique, et quelqu'un qui est mal, qui ne dort pas, j'en ai connu pendant mes années dans ce service, qui arrivait, qui au final, au bout des 4 premiers jours, disait « mais moi je ne dors pas la nuit, j'ai la boule au ventre quand je viens, ce n'est pas du tout pour moi
».
À cette époque-là, c'est des personnes qui ont faisait des tests, ou alors c'était des gens qui avaient déjà été confrontés à la brûlure, qu'ils prenaient dans ce service, pour d'accord. savoir qu'ils vont résister et que ça va leur plaire, quoi.
Bien sûr.
Du coup, c'est pas pareil que d'être en urologie ou en cardiologie, où les soins, c'est en gros quand même des perfusions et des pansements traditionnels. Notre majorité de la journée, c'est des gros pansements.
Alors, en parlant de la brûlure, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît parce qu'on en entend parler, puis à la fois, c'est quand même assez obscur. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer s'il existe plusieurs types de brûlure, quel type de patient on reçoit, comment s'effectue le tri, j'aime pas beaucoup ce mot, mais comment est-ce qu'on décide si un patient nécessite d'arriver dans un service de grand brûlé ou s'il peut avoir une prise en charge plus traditionnelle dans un autre type de service ?
Alors, pour l'orientation des patients, donc il n'y a pas des services de grands brûlés partout. Il y a des services de cœur qui... On dit grands brûlés, mais c'est pas vrai, hein, ça s'appelle un service débrûlé.
Ah, excuse-moi, ouais, tu vois,
Non, non,
c'est moi
parce
qui
que moi,
utilise
je le
grand
dis...
brûlé.
Non, non, c'est pas pour toi, c'est que moi, je le dis tout le temps aussi. Je travaille dans le service des grands brûlés, mais en fait,
En
pas
fait,
du
c'est
tout.
brûlé,
C'est service
ok.
débrûlé, puisque, bah, du coup, on reçoit tout type de brûlures. On a un service de consultation, et en consultation, forcément, c'est des brûlures moins graves comme hospice. Donc, c'est un service de brûlés. Il n'y en a pas partout en France. Il y en a une vingtaine en comptant les dom-toms. Du coup, il y en a en gros un par région, les anciennes régions, pas les nouvelles régions. Il n'y en a pas beaucoup, du coup. Et du coup, en fonction où le patient se brûle, forcément, il n'arrive pas forcément dans le service de brûler. Du coup, ça va être. Il y a plein de critères en fait à prendre en compte en fonction de l'âge, de la surface brûlée, de la profondeur, de la localisation de la brûlure, qui va déterminer s'il doit être pris en charge ou non par un service de brûlé. Mais la loi, en tout cas, c'est qu'il faut prendre toujours un avis. Vers un centre le centre de brûlé auquel le CHU est, le CHU, l'endroit où se brûle le patient est attaché,
D'accord.
pour savoir justement si ça nécessite, si juste une consultation, enfin un avis par téléphone suffit quand il n'y a pas de critères de gravité sur la brûlure, parce qu'il y a plusieurs types de critères de gravité à prendre en compte, et si le patient peut rester quelques jours dans le CHU où il a atterri, ou s'il peut venir en consultation qu'une fois par semaine et être suivi, rester dans le CHU, ou s'il doit être pris en charge chez nous. Donc,
Est-ce que du coup il y a une unité qui se déplace et qui peut être contactée pour effectivement faire ce tri ou comment ça se
non,
passe?
alors il n'y a pas une unité qui se détache, il y a toujours un numéro d'urgence à appeler, qu'en
D'accord.
général tous les services de la région, des régions qui sont associées à ce centre hospitalier ont. Et qui appelle pour donc envoyer des photos maintenant, une
Ah,
technologie
d'accord.
pour évaluer la brûlure par téléphone, les critères, etc. Et pour dire, ah bah, à ce moment-là, enfin, il faut que vous nous l'envoyiez, ou à ce moment-là, attendez quelques jours avant de nous l'envoyer, parce que faut savoir qu'une brûlure, en fait, ça s'évalue sur la localisation, bien sûr, sur la surface, on peut l'évaluer de suite, mais par contre, la profondeur, ça s'évalue avec 48 heures à 72 heures de décalage. Donc,
Ah,
des
ok.
fois, ça sert à rien de faire venir le patient en catastrophe et qu'il arrive dans le service à 6 heures après la brûlure pour qu'on lui dise, pardon, ben on verra ça dans 72 heures.
En parlant de surface de la peau, alors moi c'est quelque chose que j'ai appris à l'école d'infirmière, mais est-ce que ça a changé? Je me souviens qu'on calculait ça en prenant comme référence la taille de la paume de la main du patient
C'est ça.
et que cette paume représente 1% de surface brûlée, c'est
Ça,
bien
c'est
ça?
ça. On prend en référence la paume de la main du patient. Ça, c'est bien sûr,
Sans
c'est
les
pas celle de
doigts.
la main du soignant.
Bien sûr.
Par contre, ça marche, comme tu peux l'imaginer, quand c'est des surfaces réduites. Parce qu'après, forcément, on utilise la règle des 9 de Wallace. Voilà, c'est juste qu'on conseille, enfin, c'est tout, on a partagé le corps en multiples de 9. Du coup, la tête, c'est 9%. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la tête, ça part, c'est tout le cou et toute la circonférence de la tête, c'est 9%. Quand on prend le bras, la totalité de la circonférence du bras aussi, c'est 18%. Du coup, enfin, c'est 9%. La face antérieure du thorax, c'est 18%. Enfin, thorax, abdomen, des plis inguinaux jusqu'en haut des épaules, du coup, 18%. Et tout ça avec des
D'accord.
multiples de 9, ça fait qu'on peut plus facilement, pour des personnes qui arrivent. Parce que on prend en charge les brûlés, certes, mais il y a quand même le pompier ou le SAMU qui arrive sur place en première intention et qui va récupérer le patient et qui va utiliser cette règle pour vite fait faire un état des lieux de la surface brûlée. Et après, la dernière règle, c'est Lundenbrunder qui est utilisée, je pense, que spécifiquement dans un service de brûlé. À ce moment-là, il y a le chirurgien, en tout cas ça se passe comme ça dans le service, qui est avec une cartographie papier à côté de nous quand on reçoit le patient en urgence et qui dessine précisément sur la silhouette d'un corps les zones de brûlure pour déterminer précisément au pourcentage près la surface brûlée, puisque cette surface brûlée détermine la quantité de remplissage qu'il va falloir faire pour compenser les pertes hydriques du patient.
Le remplissage,
Remplissage.
c'est les perfusions qu'on injecte au patient pour lui restituer
C'est
de
ça.
l'hydratation dont il a manqué à cause de la brûlure.
C'est ça. Donc, et
D'accord.
qui sont très importantes pour dans les premières 48 heures, 72 heures. Sinon, on peut risquer une insuffisance rénale, être obligé de dialyser le patient. Parce
D'accord.
que, bon, après, ça, c'est dans les grands brûlés, hein, bien sûr. Quand il y a
Oui,
des grandes
oui, oui, oui.
surfaces. La règle, c'est qu'au-dessus de 10% de surface brûlée chez un adulte, il faut le perfuser. Et au-dessus de 5% pour un enfant, il faut le perfuser. Donc, c'est à
D'accord.
partir de ce critère qu'on détermine déjà s'il faut hospitaliser la personne. Forcément, si elle doit être hydratée pendant 48 heures, il faut
Ok.
l'hospitaliser.
Quelque chose qu'on entend beaucoup, alors moi je me souviens même l'avoir vécu en stage, mais tu vas pouvoir nous dire si c'est vrai. J'ai vu dans un service, alors j'arrive plus à me souvenir si c'était aux urgences, mais une feuille accrochée au mur avec une liste de numéros de téléphone de coupeurs de feu. Donc ces personnes qui ont un don, Alors, je sais, je m'y connais pas très bien, donc je sais pas si ça relève du...
Moi, je connais un peu.
du magnétisme, voilà. Est-ce que c'est un peu, voilà, de ce type-là, des personnes qu'on peut être amené à appeler pour des personnes qui sont brûlées, pour couper le feu et pour, voilà, régler le souci le plus rapidement possible. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Est-ce que c'est une légende ou est-ce que ça existe?
Alors, ça ne m'étonne pas du tout que ça se fasse à côté de chez toi, parce que c'est très culturel, en fait. Il faut savoir que, enfin, j'ai découvert ça parce que chaque année, je pense que comme dans toutes les spécialités, il y a un congrès des brûlés. Et le congrès des brûlés se déplace et est organisé à tour de rôle par les villes qui ont un service de brûlés dans leur ville. Donc, en fait, chaque année, ça se déplace. Cette année, s'il n'y avait pas le Covid, ça aurait été à Nantes. L'année prochaine, c'est à Hyères. Il y a 2 ans, ça a été... Enfin bref, ça change de ville, quoi, Lyon, etc. Et moi, j'étais allée à un congrès à Lyon, et il y avait des magnétiseurs qui venaient même participer et exposer leur expérience au congrès des brûlés. Et donc, c'est extrêmement culturel, c'est-à-dire que dans l'est de la France, c'est très culturel et ça se fait. Il y a des coupeurs de feu qui sont dans le service.
D'accord.
Moi, je te dirais que dans mon service, dans le sud, c'est pas trop culturel au niveau des médecins, en tout cas. Donc, je sais pas si les médecins donnent le ton. En tout cas, les patients nous en demandent. Personnellement, dans ma vie, je connais quelqu'un qui est coupeur de feu, à qui j'ai déjà demandé des services. Moi, personnellement, j'ai été bluffée, effectivement, étant dans le milieu médical, je pense qu'on est tous un peu cartésiens quand même. Je n'y croyais pas vraiment. Et après, voilà, ça coûte faim. Ça ne va pas faire de mal, hein,
c'est sûr.
Un magnétiseur normal, parce que j'ai déjà vu des gens qui voulaient se faire payer 500 euros et qui arrivaient et qui me disaient « Alors, vous m'ouvrez les pansements pour que je travaille ?» Pas vraiment, non. Donc un magnétiseur, ça a juste besoin, des fois même il y en a qui le font à distance. C'est ça.
En tout cas, ici, c'est ce qui se fait par un coup de téléphone. Alors, c'est assez stupéfiant. Puis comme tu dis, quand on est cartésien, c'est difficile d'y croire, mais... Pour l'avoir vu de mes yeux aussi, et Dieu sait que je suis cartésienne, parfois on doit admettre qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas et que ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne, du coup. Alors, les magnétiseurs, la manière de se fonctionner, c'est que ça enlève l'inflammation. Donc
c'est
ça ne va absolument pas guérir. Hein. Donc
la
brûlure, elle est profonde. Le problème de la brûlure, c'est la phase inflammatoire de début, et qui fatigue beaucoup le patient, qui demande beaucoup d'énergie, qui peut durer plus ou moins longtemps en fonction du patient, et tant que cette phase ne peut pas passer, il n'y a pas de début de cicatrisation.
D'accord.
Donc déjà, il y a la douleur, d'une, pour l'inflammation, et de deux, il n'y a pas de cicatrisation qui commence tant qu'il y a une phase inflammatoire. Du coup, le fait qu'il y ait un magnétiseur qui agisse, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un patient où franchement, c'était pas terrible le vendredi. Quand je suis arrivée le lundi, ça avait beaucoup avancé, le patient était beaucoup plus en forme, et bon, si ça se trouve, en même temps, j'ai pas fait... Enfin, on peut pas dire, genre, le magnétiseur va agir sur un bras à droite et ça va pas avancer, et ça va avancer, un bras à gauche, ça va pas avancer. Donc, si ça se trouve, ce patient, c'est très génétique, la cicatrisation, hein, donc, il y a des patients qui cicatrisent très bien ou pas. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez vu le magnétiseur ce week-end? Il m'a répondu oui. Du coup, pour moi, c'était ça. Maintenant, après, si ça se trouve, c'est pas vrai, hein.
Mais, oui, on saura jamais.
Mais en tout cas, les personnes qui ont eu recours à un magnétiseur, moi, je trouve qu'on a vu la différence.
Ok. On parlait des pansements, c'est quelque chose que je me souviens également avoir abordé pendant les cours à l'école d'infirmière. Est-ce que tu peux nous donner une idée du déroulement d'un pansement? Alors, je te demande de faire des grosses généralités, c'est pas facile, mais quel produit on utilise sur la peau de quelqu'un qui a été brûlé? Combien de temps ça prend? Voilà, quelles sont les règles importantes? Comment ça se déroule?
Alors, déjà par rapport à l'utilisation des crèmes... Il faut qu'une brûlure, elle cicatrise en moins de 3 semaines. Déjà, pour se dire sur la longueur, après comment on prend en charge un brûlé, il faut que ça cicatrise en 3 semaines, sinon il faut avoir recours à des greffes de peau. Donc c'est le temps qu'on se donne, et c'est le temps qu'on donne à tous les patients, quand ils arrivent, on leur dit... Enfin, c'est compliqué pour eux, parce que c'est pas... vous rentrez pour l'appendicite, vous êtes opéré d'une cœlio, vous allez attendre 2 jours, et il y aura ça comme suite. C'est pas du tout ça la brûlure, c'est très dépendant de la personne. Et du coup, on leur dit qu'il faut qu'ils aient cicatrisé en 3 semaines. Tout ce qui n'aura pas été cicatrisé en 3 semaines, il faut greffer. Donc du coup, ils attendent pendant 3 semaines, ils ont le stress de dire à chaque tous les jours, ils nous disent « ça a avancé ». Donc voilà, le problème c'est que voilà, il y en a qui avancent très vite dans les premiers débuts des 3 semaines et qui s'arrêtent en cours de route. Il y en a que c'est l'inverse, ils rament pendant une semaine et demie et après ça se met en route. Donc c'est vraiment dépendant du patient.
Donc, puis de la génétique, du coup, comme tu disais.
Et la brûlure, évidemment, aussi. Du coup, ça c'est une première règle. Ensuite, quand le déroulé du pansement, c'est que le pansement se fait tous les jours la première semaine de la brûlure, puis 1 jour sur 2, parce que le but c'est d'hydrater au maximum cette brûlure, et que si on fait un pansement que un jour sur deux dès le début, en fait, quand on voudra retirer les pansements faits, ils vont être adhérents, en fait, ils vont faire mal au patient. C'est important parce que, déjà pour la douleur bien sûr, et important parce qu'un patient brûlé doit bouger. En fait, il faut qu'il soit en hyperextension tout le temps au niveau des articulations parce qu'il y a un gros risque de séquelles fonctionnelles sur des brûlures qui ne seraient pas forcément graves, mais qui pourraient réduire l'amplitude articulaire si on ne le prend pas correctement en charge.
Ah oui, si on garde par exemple un coude un petit peu plié, la cicatrisation va se faire dans ce sens-là et le bras pourra plus s'étendre normalement derrière.
Donc même s'il n'y a pas d'atteinte articulaire, ligamentaire, musculaire, si la peau ne suit pas, ben en fait ça vous bloque complètement l'articulation. Du coup, c'est hyper important de donner ça comme indication au patient, d'être en hyperextension, de mettre des attelles, et de faire des exercices avec le kiné, etc. Donc c'est important que le pansement soit fait dans ce sens-là. C'est que les compresses doivent être mises dans tous les plis, parce que quand tu donnes l'exemple du coude, c'est réel, mais il y a aussi l'exemple des doigts. Si tu ne fais pas un pansement avec les espaces interdigitaux qui sont bien marqués, le patient finira avec une main palmée. Donc, il peut y avoir des conséquences graves, graves dans le sens pas mortel, mais dans le sens fonctionnel, qu'on peut éviter. Donc le pansement, c'est vraiment très très important de savoir bien les faire. C'est le rôle infirmier, c'est pour ça que ce service c'est très intéressant parce que ça repose mine de rien sur le travail infirmier réel et le binôme aide-soignant-infirmier pour la réalisation du pansement, puisque bien sûr on est en stérile pour éviter de mettre des germes.
Oui, c'est ce que j'allais te demander du coup. Le binôme infirmier-aide-soignant, on imagine qu'il est très important pour avoir quelqu'un qui nous assiste, qui nous épaule, à qui on puisse déléguer des soins. Est-ce que tu penses à d'autres acteurs qui interviennent dans ce type de prise en charge? Tu as parlé des kinés.
Oui, kinés d'une diététicienne, parce que les brûlés, c'est notre diététicien qui est nouveau, là, il dit au patient, votre organisme, c'est comme s'il courait un marathon tous les jours, actuellement, les brûlés. Donc du coup, l'alimentation, c'est hyper, hyper important. Il faut donner une alimentation hyper protéinée. Les patients, ils ont un peu de mal parce que les deux premiers jours, on les laisse le temps d'arriver. Hein. Mais ensuite, on leur donne des plateaux repas avec deux viandes, enfin deux protéines, pas deux viandes forcément, mais deux sources de protéines, plus des jus hyperprotéinés à prendre deux, trois fois par jour. Alors bien sûr, quand je dis ça, ça dépend de la brûlure. Hein. C'est sûr que si vous avez un truc en cuisine, vous n'allez pas en arriver à ce stade-là. Mais quand on est brûlé à 10-20%, déjà, voilà, on leur demande de prendre deux, trois jus hyperprotéinés par jour. Quand ils sont brûlés au-delà de ça et qu'ils n'arrivent pas à manger, on leur met souvent une sonde nasogastrique avec une alimentation hyperprotéinée en plus. Parce que si l'organisme n'a pas d'endroit, n'a pas d'apport pardon, pour trouver ses protéines pour reconstruire sa peau, ça c'est les primordiaux kinés diététiciens. Et après, assistance sociale souvent, parce que malheureusement la brûlure c'est associé à des histoires de vie souvent un peu compliquées. Il peut y avoir des cas où perte de la maison. Ce qu'il faut se dire, c'est que déjà en fonction de la surface brûlée, ça a des conséquences des fois, sur une année de vie, parce que toute cicatrice vit pendant un an. Du coup, il y a un an de prise en charge derrière, pas en continu, mais il y a des stages et séjours à faire en centre de rééducation, il y a des vêtements compressifs à porter, il faut faire attention à ne pas se mettre au soleil, etc. Donc en fonction du travail que vous aviez avant, des séquelles esthétiques qu'il va y avoir derrière, ou fonctionnelles, des fois il faut changer de travail, donc ça touche vraiment à l'ensemble de la vie du patient.
Est-ce que toi, au quotidien, dans ton travail, tu as observé davantage de brûlures accidentelles, type brûlures domestiques? Des brûlures professionnelles, est-ce que c'était des brûlures par le feu ou plutôt des brûlures chimiques? Alors sans donner forcément un pourcentage, mais plus pour donner un tableau des patients que tu recevais?
La majorité, donc, c'est des brûlures thermiques, que ce soit... Souvent, ce qu'on voit quand même, c'est des écobuages. Donc écobuages, je ne savais pas ce que ça voulait dire avant d'arriver dans le service des brûlés, c'est quand on fait brûler ses herbes, ses branches, etc. dans son jardin, ça s'appelle un écobuage.
Très bien. Voilà, un nouveau mot.
Voilà, ben, ça l'était aussi pour moi aussi. du coup, les personnes qui veulent faire partir le feu plus vite hein, et qui balancent Watt Spirit et autres produits, il y a du vent et du coup, les fumées s'enflamment, les vapeurs s'enflamment, pardon, et le patient prend un retour de flamme. Voilà, ça c'est une grande proportion, j'ai l'impression, de brûlures. Des brûlures type barbecue aussi, ils vont pas le même combat, ils jettent quelque chose dessus et les vapeurs s'enflamment. Comme action thermique, c'est ça. Après, les mauvaises réactions, l'huile prend feu dans la cuisine et vous balancez de l'eau dessus. Voilà, ça c'est un peu traditionnel, comment on réagirait quand on est un peu stressé, des fois on fait des bêtises. Voilà, après il y a des brûlures chimiques liées à l'utilisation du béton qui mine de rien brûle et les personnes ne le savent pas, ou alors utilisent des produits chimiques et voilà, se brûlent. Après malheureusement il y a une autre part, c'est les violences hein, donc, ou les immolations, ça arrive ça fait partie d'une partie des patients hospitalisés dans le service des brûlés, des gens qui s'immolent, malheureusement.
Avec une prise en charge psychologique lourde, j'imagine, pour ces patients. On a parlé du personnel paramédical et médical qui intervient. Est-ce qu'au niveau du corps des médecins, réellement, est-ce que tu peux me dire quelles sont les spécialités qui interviennent dans ce type de service? On pense aux chirurgiens plastiques. Est-ce qu'il y a d'autres chirurgiens qui interviennent ou d'autres médecins?
Du coup, c'est chirurgien plastique principalement, puisqu'on fait des reconstructions, enfin des greffes de peau et des différentes reconstructions en fonction des séquelles. Après, il peut y avoir, on peut des fois demander de l'aide à des chirurgiens qui sont plus aguerris dans certaines méthodes. Je parle de patients où on a dû reconstruire le nez, où il y a plus de lobe d'oreille et qu'il faut reconstruire aussi. Du coup, on fait appel à d'autres spécialités s'il y a besoin, mais c'est principalement des chirurgiens esthétiques pour la reconstruction. Et par contre, il y a une grosse prise en charge de la douleur, comme tout le monde peut se l'imaginer. Du coup, il y a une prise en charge par des anesthésistes réanimateurs aussi. Donc c'est une double casquette de version bilan sanguin et tout, parce que la brûlure en fait ça a une répercussion multiviscérale. Du coup il y a besoin de médecins capables de remplir le patient, d'adapter la prise en charge en fonction du bilan sanguin perturbé, etc. Donc ça c'est la partie anesthésiste réanimateur et la partie chirurgicale par le chirurgien.
L'anesthésiste, contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'est pas une personne qui ne fait qu'endormir des patients au bloc opératoire. C'est le professionnel de la prise en charge de la douleur. Alors après il existe des cellules aussi, je pense, pour j'ai vu ça dans certains hôpitaux avec vraiment des médecins spécialisés dans la douleur, mais l'anesthésiste, c'est vraiment le premier répondant pour ce type de choses. En parlant des douleurs, d'ailleurs, on imagine des douleurs insupportables pour ces patients. Comment est-ce qu'elle est prise en charge, cette douleur? Alors, sans rentrer trop dans le détail, mais je pense à l'utilisation de morphinique ou de choses comme ça. Comment est-ce qu'on soulage la douleur d'un brûlé?
La prise en charge de la douleur, c'est essentiel, hein, c'est même la chose principale qu'on fait dans le service. Je pense que ce qu'on dit le plus souvent, c'est est-ce que ça va, est-ce que vous avez mal? Et on leur explique bien qu'il ne faut pas courir après la douleur pour un brûlé, il faut bien casser la douleur dès le départ pour que ça se passe au mieux. Ce qu'on s'imagine pas, enfin ce que je m'imaginais pas moi en tout cas, c'est qu'une brûlure, plus elle est profonde, moins elle fait mal, et plus elle est superficielle, plus ça fait mal. Du coup, ça déjà, c'est traître, parce qu'il y a des patients du coup qui arrivent un peu tard, des fois, parce qu'ils n'ont pas mal, et que comme tout le monde sait, c'est la douleur qui fait consulter, et des patients qui arrivent avec une brûlure superficielle et qui est encore plus difficile à calmer.
Et comment ça s'explique, ça? Est-ce que quand on est brûlé plus profondément, il y a des récepteurs qui sont atteints et du coup, on ne sent plus la douleur?
D'accord. C'est qu'en fait, quand on est brûlé superficiellement, les terminaisons nerveuses sont à vif, du coup, ça fait très mal. Même le coup de soleil fait très mal, des fois, quand on a un bon coup de soleil. Et par contre, une brûlure profonde, les terminaisons nerveuses sont brûlées et n'ont plus de sensibilité. Du coup, c'est pas forcément le plus douloureux. Malgré tout, on a rarement une brûlure troisième degré homogène, en fait. Hein. Souvent, il y a un peu de tout. Du coup, ça reste douloureux. Et en plus, il y a la douleur psychologique qui est quand même là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des patients qui hurlaient en arrivant et tout. Et c'était juste parce que la douleur, les psychologues aussi dont je n'ai pas parlé, prise en charge du brûlé. Et un brûlé, c'est vécu comme une agression. Du coup, pour les calmer psychologiquement aussi, c'est difficile, d'autant plus que de suite, il y a l'idée de séquelles esthétiques, etc., qui viennent avec, quand on est brûlé au niveau du visage, la peur d'être défiguré qui est présente.
C'est des gens qui rentrent avec une angoisse directe, et cette angoisse, elle peut prendre presque le dessus sur la douleur physique, tellement ils pensent à l'après.
Et deuxième chose pour la gestion de la douleur, parce que c'est des messages que j'aimerais bien faire passer aussi, c'est que contrairement à un patient lambda qui arrive aux urgences et à qui on doit faire des points de suture, par exemple, et on donne un antalgique, on attend que l'antalgique agisse et après on fait le soin. La brûlure, c'est la brûlure qui est à l'air en fait, qui est douloureuse. Donc le pansement enlève 80% de la douleur. Donc on donne les antalgiques quand ils arrivent, mais par contre on en fait de suite le pansement. Parce que ça va participer vraiment à la prise en charge de la douleur. C'est l'exemple que je donne souvent, c'est quand on se coupe en cuisine, on sent le couteau qui est passé, vous savez quand on s'est coupé, la douleur arrive une seconde avec un petit décalage. Et quand on met sa main dessus, en général, la douleur diminue quand même un peu. Ben, c'est parce que l'air rentre plus en contact avec la plaie. C'est pour ça qu'on a mal. Donc, chez les brûlés, forcément, c'est décuplé quand la surface est encore plus brûlée.
Ah, c'est intéressant. Donc, il faut tout reprendre dans l'autre sens. Il faut vraiment.
Et d'ailleurs, en général, enfin, avec les anesthésistes avec lesquels j'ai travaillé, qui étaient des brûlologues, puisqu'ils avaient une spécialité brûlée, ils me disaient. Moi, au début, quand je suis arrivée, je donnais le palier 1, le palier 2, le palier 3. Et chez les brûlés, en général, on donne le palier 3. Et après, on donne les autres qui s'associent. Pour la gestion de la douleur, donc c'était la question initiale, c'est des patients qui prennent les trois paliers de la douleur. Donc, pour faire simple, le palier 1, les paracétamol. Le palier 2, c'est tout ce qui est contramal acupant. Et le palier 3, c'est tout ce qui est morphinique. Donc, c'est des patients qui prennent effectivement beaucoup de médicaments. Ils ont de la morphine en libération prolongée, donc matin et soir, plus à la demande. et avec en plus des paliers 2 et paliers 3, et palier 1, pardon, en plus, plus utilisation du Calinox.
D'accord, le Calinox qui est ce gaz hilarant qui peut permettre de rendre les soins moins désagréables pour le patient. Est-ce qu'on peut être amené à sédater, c'est-à-dire à endormir de façon artificielle un patient, donc ce qu'on appelle dans le langage courant le coma artificiel, est-ce qu'on peut être amené à faire ça pour un patient pour soulager sa douleur ?
Oui, alors déjà, la brûlure, c'est jamais prise en charge semblable à chaque patient, hein, donc on s'adapte à chaque cas. Du coup, ça peut être un patient qui n'est pas en coma, qui n'est pas endormi pendant la journée, mais qu'on est obligé de faire le pansement au bloc opératoire parce que c'est trop douloureux, ou ça va être trop long, parce que je pense aux greffes de peau, quand on les fait des greffes de peau et qu'on met des agrafes tous les demi-centimètres pour tenir la greffe de peau, qu'il faut enlever les agrafes. Les agrafes, enlever des agrafes, c'est pas douloureux quand vous en avez quelques-unes à enlever, mais quand il y en a sur tout un dos, toute une jambe, et qu'il y en a 500 à enlever, il y a des fois, c'est trop. Donc, il faut endormir, il faut bien prémédiquer le patient et il faut aller l'endormir en salle de bain thérapeutique ou au bloc opératoire s'il y a besoin. Après, il y a des patients qui sont endormis dès la brûlure parce qu'il y a trop de surface, qu'il faut qu'ils soient pris en charge déjà au niveau pulmonaire aussi, parce qu'en fait, les brûlures, il y a aussi des brûlures internes qui peuvent être faites, dans le sens où vous êtes dans un incendie, vous respirez les brûlures chaudes, les fumées chaudes, excusez-moi, les fumées chaudes, et du coup, ça brûle, la réaction que ça a sur la peau, ça a la même dans les muqueuses et dans les poumons. Donc des patients qu'on est obligé d'intuber par rapport à ça déjà.
Et qu'on ventile du coup artificiellement pour,
c'est ça.
Pour qu'ils puissent se remettre de tout ça.
C'est ça, parce que du coup, et là, à ce moment-là, l'intubation et la prise en charge par le respirateur de la respiration va être un traitement à part entière pour traiter la brûlure à l'intérieur des poumons. Et après, il y a le cas d'un patient qui n'a pas de brûlure respiratoire, mais qui effectivement a trop de surface brûlée et qu'il faut endormir, ne serait-ce que pour qu'il dépense moins d'énergie, et puis pour le supplémenter en tout, en fait, parce que la prise en charge est très longue.
Est-ce que tu as une anecdote peut-être d'un patient ou de plusieurs patients que tu pourrais qualifier de miraculés qui sont rentrés dans ton service avec une brûlure très 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 importante, que vous avez peut-être gardé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui s'en sont sortis?
Ah ben, il y en a plein. Il y a plein de patients qu'on garde, en général, la prise en charge 3-4 mois, hein, pour faire des greffes, parce que les greffes, on peut tout greffer en même temps, donc on les reprend au bloc, donc c'est des patients qu'on garde très longtemps. Donc il y en a plein qui sont sortis effectivement et qui nous donnent des leçons de vie, de résilience après derrière, de tout ce qui. De remonter la pente malgré les séquelles esthétiques, donc ils nous marquent chacun avec une histoire de vie différente, ils nous marquent chacun différemment. J'ai du mal à faire le choix avec une expérience à raconter, en fait.
Il y en a tellement.
Oui, c'est ça, exactement. Il y en a tellement pour tellement de raisons différentes. Si on peut parler déjà des enfants qui sont brûlés et qui les brûlures, ça se rétracte, en fait, chez les adultes déjà, hein. Et donc les enfants, quand ils grandissent en plus en même temps, c'est compliqué. Les séquelles esthétiques qu'il y a aussi, donc. Je sais que ce jeune garçon m'avait marqué parce qu'on lui faisait on lui mettait des ballons d'expansion pour récupérer ses cheveux et pour enlever toutes les séquelles qu'il avait.
Est-ce que tu peux expliquer du coup ce que c'est qu'un ballon d'expansion ?
Et en fait, là, on est en chirurgie de séquelles, hein, c'est pas du tout la chirurgie du brûlé. Il avait quasiment plus de cheveux. En fait, un ballon d'expansion, c'est un ballon qu'on met sous la peau et on utilise, c'est sur le principe du ventre de la femme enceinte qui grossit et qui facilite, enfin, l'organisme est fait pour ça. En fait, vous avez quelque chose qui grossit, la peau s'étend au fur et à mesure. Donc, vous mettez ce ballon, donc bien sûr, vide sous la peau. Vous le gonflez, donc il y a un petit capteur pour le gonfler régulièrement. Donc, toutes les semaines, il vient se faire gonfler le ballon selon la quantité, selon comment sa peau le supporte. Et quand ce ballon a fini de grossir, sachant qu'il peut aller jusqu'à 500 ml, 1 litre, on prend la peau qui a grossi par-dessus, on enlève la cicatrice à côté, et du coup on rabat pour, avec la peau qu'on a obtenue sur le ballon, pour enlever la cicatrice. Et donc là, on s'est utilisé beaucoup dans les alopécies, donc où il n'a plus de cheveux par exemple. Donc c'était le cas sur ce jeune homme qui avait, quand je dis jeune homme, c'est qu'il a commencé sa chirurgie, sa chirurgie de séquelles, je pense, à 5-6 ans, et donc il est arrivé à l'adolescence, il avait eu je ne sais combien de ballons d'expansion pour réussir
incroyable.
À avoir ses séquelles et avoir tous ses cheveux. Voilà, donc je laisse imaginer à l'école voilà comment ça se passait quand on a un ballon qui pousse sur la tête, voilà, quand on se plaint d'avoir 3 boutons sur le visage.
Il gardait une vie scolarisée à côté.
Et du coup, voilà, c'est des leçons de vie où nous, on se plaint d'avoir 3 boutons des fois à l'adolescence et de voir eux comment ils arrivent à. Enfin, comment ils arrivent, ça a été difficile, hein, mais voilà, c'est des leçons de vie comme ça. Du coup, c'est des choses comme ça qui marquent. Après, des pompiers qui sont brûlés. C'est des personnes qui s'immolent, en fait. Enfin, voilà, c'est leur parcours de vie. On a une distance qui est plus facile à mettre quand c'est des personnes qui, les pompiers, donc, pour sauver une ville et tout ça, sont brûlés dans leur travail, en fait, c'est compliqué. Enfin, ça a été compliqué pour moi, pour toute l'équipe. Hein. La prise en charge, la distance et tout ça à avoir avec ces personnes, c'était un peu compliqué. Ça restera des choses qui m'ont marqué. Et après, différents patients qui avaient d'énormes séquelles et tout ce travail qu'on peut faire, qui prend de nombreuses années, etc., pour qu'ils retrouvent une qualité de vie, en tout cas une esthétique le mieux possible.
Justement, je voulais finir ce petit entretien en te demandant, alors je pense qu'il n'y a pas une recette miracle, mais globalement, comment est-ce qu'on gère émotionnellement de voir une telle souffrance physique, psychologique? Est-ce que justement, on se raccroche à ces histoires qui finissent par bien se terminer, si on peut dire qu'elles se terminent bien?
Franchement, je sais pas. Je pense que déjà, on est fait ou pas pour travailler chez les brûlés. Je pense qu'il y a déjà une première chose. Par exemple, moi, je ne me pourrais pas, je pense, alors que peut-être c'est paradoxal, j'en sais rien, mais travailler en cancéro ou en hémato-soins intensifs, je pense que ça serait très difficile pour moi, alors que visuellement, on voit rien. Hein, je veux dire, il n'y a pas de... C'est des personnes... des personnes qui n'ont pas de plaies, qui n'ont rien de particulier, alors que pourtant, nous, on fait tout ce qui est grosses plaies, etc. Mais je pense que j'aurais du mal à travailler dans un service comme celui-là. Et donc, je pense que déjà, on est fait pour ça, et il faut que ça soit passionné par la plaie et par la cicatrisation, je pense que déjà ça. En prenant beaucoup de temps pour faire le vide, pour s'aérer, pour sortir voir des amis, pour avoir des activités à l'extérieur. Prendre du temps, comme tout soignant, en fait, je pense.
Mais ça, je crois que ça va être la conclusion de tous les épisodes que je vais faire, mais ça me paraît tellement, tellement vrai, tellement important de garder une vie personnelle à côté très, très intense pour passer à autre chose, quoi, pour vraiment couper du travail.
C'est ça. Et après, quand on met la blouse, on n'a pas une autre personnalité, mais on est dans le rôle de soignant, et quand on l'enlève, il faut essayer de... C'est pas toujours facile, ça marche pas toujours. Hein. Ça, je pense que ça aussi, il y a des fois, on est trop impliqué émotionnellement, mais ça s'apprend aussi, il y a des formations aussi pour aller, pour donner des petits tuyaux, pour vraiment essayer de mettre à distance tout ça.
Merci beaucoup Stéphanie, c'est incroyable d'avoir ton expérience dans ce service qui est si méconnu, si complexe, qui demande, comme tu viens de le prouver, autant de qualité, de ressources nécessaires pour prendre en charge ces patients qui sont complexes. Et puis, je voudrais finir, du coup, cette interview par un petit portrait chinois. Si tu as déjà écouté les premiers épisodes, tu sais que j'aime bien finir avec ça. Donc, la première question, si tu avais une baguette magique, quel outil tu voudrais inventer pour t'aider dans ta pratique?
Alors, j'avais pensé à deux choses. J'ai pensé à des petites lunettes, tu sais, où tu pourrais voir les veines des patients avec un scanner intégré.
Je crois que ça existe.
Ah, c'est vrai?
Oui, alors je crois que c'est un peu encore en test, mais je crois avoir vu passer ça sur Internet, des sortes de mini échographies pour pouvoir voir les veines.
Ah, au CHU, là, on utilise... il y en a qui ont des formations pour, avec une écho, voir les veines et pour piquer. Et là, si on les avait directement intégrées sur les lunettes,
oh là là.
Ça serait pas mal.
Et ça serait fabuleux.
Et sinon, avoir le pouvoir de la baguette magique d'Harry Potter avec les Wingardium Leviosa, c'est pour surélever les patients, comme ça tu changes le drap facilement et tout. Nickel, ça serait fabuleux. En plus, au niveau douleur et tout, mon Dieu, comme ça nous faciliterait la vie.
Ensuite, la phrase que tu prononces le plus dans ton métier.
Du coup, je pense que moi, ce que j'ai l'impression de dire tout le temps, du coup, chez les brûlés, est-ce que ça va, est-ce que vous avez mal? Je pense que ça, c'est la phrase. Et sinon, mes collègues diraient sûrement, pour que le pansement tienne, fais des 8 autour des articulations. Je le répète à tout le monde, tout le temps, parce que le pansement, il faut qu'il soit bien fait, et pour que ça tienne, il faut faire des 8 autour des articulations.
Qu'est-ce que c'est que ce 8? C'est une technique pour faire un bandage un peu particulier pour que ça tienne en place sur les articulations.
En fait, toi, ou je pense que tout le monde le sait, mais quand tu fais, si tu prends l'exemple simple de la jambe, quand tu passes au-dessus du genou, tu peux monter en spirale de la cheville jusqu'à la hanche, sinon ça va pas tenir. Donc quand tu arrives au niveau de l'articulation, tu fais un tour au-dessus, un tour au-dessous, tu reviens. Et je sais pas si c'est parlant, mais de dire qu'on fait à 8, on fabrique des tenues entières, qu'on habille le patient, des fois, de la tête, on fait un masque, tout le corps est pris par des bandages, et des fois, comme je le disais, des fois, c'est un jour sur deux le pansement, donc il faut que ça tienne, il faut que le patient puisse bouger avec.
Bien sûr.
Du coup, il faut que ça tienne pour pas qu'il ait mal, et pour qu'il puisse bouger, donc pendant le pansement, je vois, je disais, mais fais des 8 autour de l'épaule, autour de ceci, parce qu'on fabrique des t-shirts et tout, donc faire des 8.
C'est sûr. Bon alors, retenez de faire des 8, c'est important.
C'est ça.
Alors, question suivante, si tu étais un médicament?
Du coup, pour rester dans le thème des pansements, peut-être la crème flamazine, la magique magique que tout le monde n'utilise pas. D'ailleurs, chez les brûlés, il n'y a pas forcément de consensus dans tous les services de brûlés de France. Tout le monde n'utilise pas la même chose, mais en tout cas, nous, on utilise la flammazine. Donc, crème fraîche et qui permet aux compresses de coulisser sur la brûlure pour que le patient puisse bouger. Chez nous, on dit qu'on tartine. Parce que en fait, pour faire les pansements, on met la main stérile dans le pot et on utilise notre main comme une pelle et on la tartine sur des compresses qui vont jusqu'à 80 cm pour couvrir le corps en entier. Et du coup, notre principale activité est le tartinage. Donc les pâtissiers qui se brûlent me disent « Ah, vous pourriez faire de la pâtisserie ». Et là, ils disent « Ah, ben dites donc, vous pourriez faire avec une truelle, vous seriez forte, vous, pour faire du bâtiment ».
Donc toi, le dimanche matin, c'est croissant, quoi. C'est pas tartine parce que t'as plus envie de voir un tartineur. Eh ben, en parlant de petit déjeuner, plutôt thé ou café ?
Eh ben, rien du tout. Je suis plutôt eau. Voilà. Ah. Et vu comme je suis un peu speed, mais les médecins de mon service disaient « Heureusement qu'elle ne prend pas de café, parce que qu'est-ce que ça serait ?» Donc...
Quelle réponse sage. Question suivante, plutôt crocs ou basket ?
Ah, les baskets. Donc, même pas sabots, quoi. Quand je suis arrivée, j'avais des sabots pendant que j'étais étudiante. Et dans le service, après, quand tu cours, quand il y a une urgence ou quoi que ce soit, je me souviens d'un jour où, quand j'ai pris un virage à 90 degrés, le sabot est parti d'un côté et moi de l'autre. Enfin, je suis pas tombée, hein, mais par contre, j'avais plus de sabots. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pris des tennis.
Et la dernière question, mais je crois que j'ai déjà ma réponse, plutôt 10 ans dans le même service ou 10 services en un an ?
Ben, du coup, c'est un peu les deux, j'ai l'impression, parce que quand même, j'ai fait 10 ans dans le même service, mais pour autant, j'ai tellement l'impression d'avoir fait de choses différentes, que ce soit hors du service, en pédagogie, ou voilà, j'ai fait tellement de choses que voilà, c'est un peu des deux, mais c'était 10 ans dans le même service quand même.
Bon, Stéphanie, j'allais te dire qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, mais je crois que t'es partie sur une nouvelle lancée, sur une nouvelle carrière professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement vers quoi tu t'orientes ?
Et oui, du coup, avoir encadré les étudiants pendant tant d'années et avoir fait beaucoup de formations déjà en parallèle, j'allais à l'école d'infirmière, je faisais les TP sur les pansements et sur plein d'autres choses. Je travaillais avec l'équipe mobile du CHU en pleine cicatrisation, en faisant de la formation continue, de la formation initiale aussi. Et du coup, ben là, je me suis lancée il y a un mois. J'ai été prise comme formatrice à l'école d'infirmière. Voilà, donc c'est une nouvelle... un nouveau métier qui s'ouvre à moi, de nouvelles habitudes à prendre.
Est-ce qu'on se donne du coup rendez-vous d'ici 2-3 ans pour discuter de ça ?
Eh bien oui, avec plaisir.
Hein, ça serait intéressant d'avoir le résumé de cette nouvelle carrière.
Et oui, comme on disait, plusieurs carrières possibles. Donc voilà, ça me change complètement, effectivement. Plus de pansements, plus de tartinage pour l'instant.
Oh là là, plus que du tartinage sur les biscottes le dimanche matin.
C'est ça.
Voilà. Écoute Stéphanie, merci mille fois pour ce partage, parce que je pense que ça en aide beaucoup, enfin, j'en suis persuadée en tout cas, afin de comprendre les rouages de ce service qui est si complexe et mal connu.
Et oui, c'est vrai que ça intrigue souvent beaucoup les brûlés. Mais en tout cas, merci à toi surtout de faire un podcast sur les infirmiers et infirmières. C'est un métier qui est à la fois connu et mal connu de ce qu'on fait réellement. Donc... il en manque, on n'écrit pas assez, on n'en parle pas assez, donc j'espère que ton podcast va durer longtemps et que tu auras plein d'interviews qui donneront envie aux gens et qui feront mieux connaître la profession.
Bah c'est le projet en tout cas, merci beaucoup. Je t'embrasse Stéphanie, je te dis à bientôt.
À bientôt Marielle.
Merci beaucoup à Stéphanie d'avoir pris de son temps pour raconter ces 10 années très riches, émotionnellement et professionnellement. Si vous pensez que votre histoire a sa place ici, je vous invite à m'envoyer un mail, l'adresse est notée dans la description de cet épisode. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel entretien.